Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, nous sommes en direct du Festival International du Film Francophone de Namur. Alors je dis en direct, non, mais on enregistre ici au festival ce week-end, sous la tente même du festival, où nous sommes hébergés pour enregistrer ce podcast spécial, comme je dis, spécial oui ou non, parce qu'on va quand même parcourir ensemble, avec Thibaut bien sûr, les films de la semaine qui sortent ce 3 octobre, mais aussi on va parcourir entre chaque film des films qu'on a vus ici au FIF. Vous allez voir que ça se mélange un tout petit peu. Par exemple, le film d'O Bataille, qui est le film d'ouverture du festival, sort également le 3 octobre, donc ça va parfois un peu se mélanger. Donc on va plonger directement dans le vif du jeu. On a de quoi faire, hein. Je crois qu'on
Il y a de quoi faire.
7 films.
Ça en fait un paquet. Le truc, c'est que forcément, on va pas parler d'actu, on va pas parler de box-office, mais on est là, on a un beau programme chargé.
C'est ça, on a eu l'occasion de voir déjà pas mal de films, donc on va pouvoir en parler avec vous.
Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite.
Vif du sujet avec un film qui a fait beaucoup de bruit dans le FIF et en dehors du FIF, c'est No Bataille, le film de Guillaume Senez avec Romain Duris, on en parlait un petit peu précédemment. C'est un film qui était le film d'ouverture, donc le premier soir ici au festival. Alors oui, peut-être que vous allez entendre parfois des petits bruits derrière, mais c'est un peu normal, hein, nous sommes en plein cœur de l'activité. Film que tu m'en avais déjà parlé 2-3 fois, hein, comme quoi c'était un vrai coup de cœur pour toi.
Carrément.
Oui.
Coup de cœur, je sais pas en fait, parce que cette année je me suis pas encore vraiment trop posé la question de vraiment quels étaient mes coups de cœur, etc., etc. Mais clairement, c'est un des meilleurs films francophones de l'année, un des meilleurs films belges certainement. Mm-hmm. Et que j'ai déjà pu voir il y a un moment, vu que je l'ai vu un tout petit peu avant le festival de Cannes. J'avais eu l'occasion de rencontrer Guillaume Senez aussi juste avant le festival. Au festival, le film a cartonné. Il a eu un gros succès, où il était en séance spéciale de la semaine de la critique. Oui. Et depuis, on n'en entend que du bien un peu partout. Donc le film rencontre un franc succès, alors même qu'il n'est pas encore sorti. Il sort maintenant, c'est pour ça qu'on en parle.
Exactement, et c'est un film qui raconte en fait l'histoire d'Olivier, qui est un homme qui travaille, donc qui a des responsabilités professionnelles, on va dire, mm-hmm. et qui se retrouve en fait presque du jour au lendemain à devoir aussi assumer des responsabilités, on va dire, familiales, puisque sa femme, sa compagne, Laura, décide de quitter le domicile. Et donc il se retrouve à devoir conjuguer à la fois son devoir professionnel et son devoir privé familial, qui c'est ses batailles, hein, voilà. Le titre du film.
Oui, c'est.
Mais bon, je dis
comme ça a l'air pas très subtil, mais
quand on voit les images en bande-annonce, on pourrait croire que c'est surtout quelque chose de professionnel, un peu comme En guerre. Attention, hein, de très loin. Mais en fait, le film ne parle pas vraiment de ça. Donc, ce soit important, on n'est pas en train dans un conflit de travail, on est dans un conflit vraiment familial et travail.
Il y a un peu de ça quand même. Hein. Il y a un peu de conflit de travail. Donc, il bosse dans un centre d'envoi style Amazon, en fait. Mmh. Où il réceptionne plein de colis et ils doivent en expédier. Et il est chef de service, donc il a quand même pas mal d'ouvriers sous ses ordres. Et il doit gérer une situation qui est compliquée, parce qu'il y a certains éléments qui ne sont peut-être plus aussi aptes qu'ils le furent un jour. Et il va devoir se séparer de certaines personnes. Mais bon, c'est pas lui qui a ses décisions en fait, c'est la direction évidemment qui prend toutes ses décisions, et à côté de ça il y a sa vie de famille qui va être complètement chamboulée vu que sa compagne part, et il va devoir assumer les deux sur un pied d'égalité, donc et sa vie familiale et sa vie professionnelle, ce qui font quand même de sacrés défis pour lui.
Mais du coup, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est un film de reconquête où il doit reconquérir sa femme, entre guillemets, ou est-ce un film où il doit accepter son nouveau rôle de père à la fois à la maison et au travail ?
C'est plutôt accepter le nouveau rôle et essayer de s'en sortir, parce que forcément, quand il y a deux personnes dans une famille qui ramènent de l'argent, qu'il y en a une qui part, déjà financièrement, ça fait quand même une différence,
oui.
Voire ça peut créer des problèmes. Et puis forcément, il y a le
manque affectif des enfants aussi, peut-être, qui recherchent la maman, qui disent tiens, où est-ce qu'elle est ?
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est vrai que c'est un scénario.
Il y a une très belle scène à ce niveau-là d'ailleurs. Et et voilà, il y a plein de choses qui vont graviter autour de cette affaire familiale, donc c'est pas une période facile pour cette famille.
C'est vrai que c'est assez marrant quand on y pense, parce que c'est souvent le papa qui part et qui laisse la maman en plan avec les enfants. Ici, c'est l'inverse dans le film.
Ouais.
Il y a aussi ce côté-là qui est volontairement mis en avant, ou bien c'était, tu penses juste...
Que ce soit l'un ou l'autre, ça, peu importe, ouais, au final. Mais c'est vrai que dans la famille traditionnelle, entre guillemets, c'est la mère qui est au foyer, même si ici elle n'était pas au foyer, elle travaillait aussi, et c'est l'homme qui travaille. Mais, et donc, l'idée du film, c'est un peu pas de casser ces codes-là, mais en tout cas de voir quelle est comment serait cette situation inverse. Alors, bien sûr, ça peut ne pas être exceptionnel, parce que maintenant l'inverse est complètement accepté et hyper classique, que ce soit le père qui reste au foyer et puis l'épouse qui travaille. Mais voilà, donc ici Guillaume Sonnez a essayé de faire quelque chose avec ce personnage qui est très fort et qui est super bien joué par Romain Duris.
C'est là où j'allais en venir, parce que parfois Romain Duris, ça peut passer ou casser. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment une performance qui est singulière pour lui, puisque c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de jouer. On le voit souvent comme beau prince charmant dans certains films. Il y a des films plus sombres aussi, mais là, c'est clairement un rôle... est-ce que ça lui colle à la peau? Est-ce que justement, il arrive à interpréter ce personnage à merveille?
Il est parfait. C'est un des meilleurs rôles de sa carrière, tout simplement. Pour moi, c'est un des choix évidents pour le César du meilleur acteur l'année prochaine. À voir si cela sera avéré ou pas, mais... Mais oui, il est vraiment très très bon, tant dans les moments plus durs, que les moments d'émotion, que les moments où il doit être un peu plus fort aussi. Donc non, vraiment, Duris a, je vais pas dire rarement été aussi bon, mais vraiment ce niveau-là, oui.
Et c'est ça la réussite de Guillaume Sonnez pour le film, la gestion des acteurs, ou bien il y a aussi un parti pris dans la mise en scène?
Tout au niveau de la mise en scène, c'est clair qu'il s'est amélioré par rapport à Keeper, qui était un premier film correct, hein, mais ici, avec Nos Batailles, clairement, il est monté d'un niveau, ça c'est sûr et certain. Et il a une façon de travailler assez particulière aussi, il donne pas le scénario à ses acteurs, en fait. Il leur donne quelques lignes et il dit, voilà, en gros, c'est ça qui va se dérouler. Donc, il construit la scène véritablement avec ses comédiens.
Il y a une vraie liberté, quoi.
C'est ça. Les dialogues sont pas figés, sauf parfois, évidemment, il faut quand même qu'il y ait certaines choses qui soient vraiment fixes, afin de faire des raccords, des relances, etc. Donc il y a des éléments qui sont essentiels. Mais pour le reste, c'est assez libre. Et c'est ça qui doit être génial pour les acteurs, c'est qu'ils peuvent, ils sont hyper impliqués dans la création de la scène et leur personnage.
Donc pour rappel, c'était le film d'ouverture du FIF ici à Namur. C'est donc un film en compétition. On a hâte de savoir un peu où est-ce qu'il va se placer dans le palmarès. Et ça sort donc au cinéma ce mercredi 3 octobre. Est-ce qu'on lui donne une note, bien sûr, vu ce qui sort?
Oui, tout à fait.
Quelle est ta note?
Un bon 3 étoiles, facile.
Un bon 3 étoiles, solide pour Nos Batailles.
Oui, oui, oui.
Un film à ne pas manquer, du coup.
Du très très bon cinéma belge.
Bah écoute, pourquoi pas Cocorico, si on peut.
Mais oui, ça arrive, et plus souvent qu'on ne le croit.
Mais oui, c'est vrai qu'on a quand même des bonnes surprises ici au FIF. Hein. On vous invite à écouter l'ensemble du podcast, parce qu'on va parler de films qui nous ont pas mal, dans l'ensemble, assez positifs. Un bilan...
Pour l'instant, oui. Oui, parce que nous sommes encore en début de festival, donc on va pas dire ce fut un festival génial.
Non.
On est encore au début, même si on a pu voir quand même pas mal de films avant. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est plutôt un bon cru.
Je tiens quand même à préciser, parce que j'ai oublié de le dire, on va parler maintenant des différents films. Juste pour faire une petite liste des films dont on va parler, quand même. Il y a Un amour impossible, le film avec Virginie Efira et Nils Schneider. Il y a Frères ennemis, donc Mathias Connard et Reda Kateb. Lola et ses frères, le film de Jean-Paul Rouve, avec notamment José Garcia et Jean-Paul Rouve, et Ludivine Sagnier. The Predator, film très attendu de Shane Black. Chien de garde, qui est un film en compétition ici par Sophie Dupuis, son premier film, qui est sélectionné pour les Oscars, pour représenter le Québec aux Oscars. On verra.
Le Canada
entièrement.
Bah, bien sûr,
c'est vrai. Le Québec, ça serait un peu bizarre.
Hein, oui.
Qu'on vient de voir d'ailleurs à l'instant. Et puis A Star is Born, c'est ni moins que le premier film de Bradley Cooper en tant que réalisateur, avec Lady Gaga dans le premier rôle. pour ce
exactement.
Film. Donc voilà, on a un beau programme ici, en espérant qu'il n'y a pas un groupe qui va commencer à jouer de la musique, parce que ça s'agit de plus en plus autour de nous.
Oui, mais ne tracasse pas, je n'entends pas grand-chose.
C'est toi qui as le casque. Donc...
Je n'entends rien dans le casque, quasiment.
Parlons tout de suite de deuxième film, Un amour impossible, qui est également en compétition ici au FIF.
Ouais.
Film qu'on a vu tous les deux, un film de Catherine Corsini, une réalisatrice qui a décidé pour ce film-ci d'utiliser le livre de Christine Angot, la fameuse chroniqueuse de On n'est pas couché, livre qui raconte en fait le passé de sa mère et la relation qu'elle a eue avec un homme dans les années 50.
Avec le père de Christine Angot.
Oui, son père, voilà, ses parents quoi, dans les années 50, qui a sans doute façonné la personnalité de Christine aujourd'hui, ça c'est sûr. Puisqu'il s'est passé des choses dans cette famille, des choses loin d'être correctes et pas une enfance formidable. Par contre, le film n'est pas sombre pour autant, donc je trouve que c'est un peu particulier. Donc on a à la fois des messages très forts, des moments très sombres, mais il y a quand même cette histoire, je dis ça après coup, mais surtout si vous avez vu les posters et les bandes annonces, ne vous fiez pas à ça, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une nouvelle comédie romantique avec Virginie Fira.
Oui.
On n'est pas là-dedans du tout.
En fait, déjà, avant de voir le film, je ne savais pas qu'il s'agissait de la vie des parents de Christine Angot. Et quand tu vois le poster, effectivement, tu dis que c'est une petite rom-com sympathique.
En Italie, c'est ça.
Et puis quand tu vois le film, non, pas vraiment. Alors, c'est pas. Il y a déjà eu beaucoup plus lourd. En tant que comédie, que drame.
Oui.
Mais il y a quand même pas mal de moments de légèreté, oui, voire d'humour aussi, qui sont présents. Cela dit, il faut quand même, enfin pour ceux qui ne savent pas de quel a été le drame de la vie de Christine Angot.
Oui, je peux te raconter.
Non, on va pas le dire, mais.
Non, mais le synopsis quoi.
Mais ce qu'elle a vécu. C'est quand même quelque chose de très très lourd, hein.
Oui.
On va pas se mentir. Mais c'est assez bien traité par Catherine Corsini, qui n'en fait jamais trop. C'est relativement subtil dans l'ensemble. Hein. Mm-hmm. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez étrange dans le film. C'est ce ton un peu spécial. Parce qu'effectivement, au début, tu as l'impression que c'est juste une chronique amoureuse qui se déroule un peu bizarrement.
Mais
et puis, il y a ce fameux élément dramatique de la vie de Christine Angot qui arrive. Et après, voilà, tu sais pas toujours sur quel pied danser.
C'est vrai. Et c'est justement ça qui m'a intéressé, moi, dans le film au début, c'est que les scènes d'amour, entre guillemets, les scènes de coup de foudre, où il y a cette relation entre ces deux personnes, le personnage de Rachel, qui est le modeste employé de bureau, qui rencontre un homme qui s'appelle Philippe, qui est un homme d'une famille bourgeoise qui est brillant, qui parle je ne sais pas combien de langues, et qu'ils ont une relation un peu passionnelle comme ça à Châteauroux avant que lui ne reparte, entre guillemets. Oui, c'est très convaincant, et je me suis dit, tiens, on est vraiment dans un film d'amour ici, mais un film d'amour, non pas une comédie, mais on est vraiment dans le truc, on va nous faire construire des sentiments, et ça marche très bien ces scènes d'amour-là.
Ouais.
Et c'est vrai qu'après, quand on tombe dans le drame, il y a parfois cette espèce de mélange de drame et d'amour et de passion, parce qu'ils se voient encore, ils continuent à se voir alors que pourtant la situation n'est pas terrible. Et c'est d'où le titre, impossible.
C'est un gars qui ne s'est jamais véritablement impliqué dans sa vie de famille. Il ne voulait pas se marier, il n'a jamais voulu reconnaître sa fille, et puis un jour il s'est quand même marié avec une autre. Enfin bon, voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et encore ça, vous avez peut-être l'impression de déjà en savoir beaucoup. Non.
Ah non,
il y a encore beaucoup de choses qui se déroulent dans
les 45 minutes du film. Ça,
donc, non, vous inquiétez pas, c'est pas de gros spoilers ce qu'on vient de raconter.
Film qui d'ailleurs est très très long. Hein. Enfin, on l'a pas senti, on l'a vu.
Ça se sent pas, mais il fait près de 2h20.
Hein. Ouais, 2h20.
Donc, c'est pas rien, effectivement.
Pour un film dramatique ou une comédie, on a l'impression. Hein, au début, moi je me suis dit, tiens, un film avec Virginie Fira et Nils Schneider, Un amour impossible, ça dure 2h20, mais qu'est-ce que ça va être? Et c'est vrai que c'est peut-être mieux de pas savoir concrètement de quoi ça parle, parce que c'est quand même une bonne claque qu'on se prend dans la figure en voyant ce film, ça c'est sûr.
C'est pas oui
mais outre le sujet, la claque on se la prend aussi par Virginie Fira, qui joue très bien son rôle, je trouve elle a un rôle de femme
elle joue bien. Après je trouve que le choix de Virginie Fira n'est pas toujours très pertinent, enfin en tout cas pas parce que c'est elle, ça serait une autre, j'aurais les mêmes critiques
pour l'âge, tu veux dire,
parce que on commence le film, elle est censée avoir 25 ans, alors que Virginie Fira a quand même début de quarantaine d'années.
Oui.
Et puis, au final, la période pendant laquelle son personnage a véritablement une quarantaine d'années, elle est assez courte dans le film. Parce que elle a plus de 70 ans à la fin du film.
Oui, oui,
elle a un maquillage assez bien fait. Mais voilà, je trouve que ce choix est pas forcément très pertinent tout le temps. même si au début ils ont essayé de la rajeunir, mais très franchement, tu crois quand même pas
non.
une seconde que clairement. Virginie Efira est crédible en fille de 25 ans. Aussi jolie, ravissante soit-elle, voilà, tu crois pas vraiment.
Non, c'est vrai.
Ce qui n'est pas plus gênant que ça dans l'absolu, mais c'est difficile de pas se faire la remarque.
La question se pose moins avec Nils Schneider, qui est un comédien que je ne connaissais pas beaucoup, je dois le dire.
Il a débuté que dans les films de Xavier Dolan, et puis on le voit beaucoup dans le cinéma français, comme beaucoup de Canadiens en fait. Hein. Il y en a pas mal qui passent en France, comme les acteurs belges passent en France, les acteurs suisses passent en France.
Qui lui est excellent.
Il est très bon.
Il est vraiment.
Il est très bon.
On a envie de le taper, quoi, mais pour toutes les bonnes raisons, justement, parce que voilà,
pour plein de raisons.
Il fait bien son travail.
Effectivement, on peut dire qu'il fait bien son travail, donc c'est très réussi. Et mention spéciale pour l'actrice qui interprète Christine Angot.
Adulte. Oui.
Parce qu'effectivement, si on a déjà vu des interventions de Christine Angot en télévision, on a l'impression que c'est elle,
vite.
Quoi.
Ouais, on connaît vite le personnage.
On connaît vite le personnage. Et très franchement, c'est pas spécialement une dame avec qui j'ai envie d'être ami, hein, Christine Angot, qu'on soit bien d'accord.
Non, elle a des choses à dire, ça c'est sûr.
Mais c'est assez intéressant de voir comment elle s'est forgée son identité et ce caractère.
Exactement. Parce que
c'est vraiment ça n'a pas été simple.
Le point fort du film, c'est qu'on s'en rend pas compte, hein, mais c'est à la fin du film, on se dit même, tiens, je comprends un peu plus la vie de Christine Angot maintenant, ou en tout cas ses points de vue parfois très très tranchés.
Mm-hmm.
Donc voilà, ça c'était quand même une grosse grosse surprise pour moi, Un amour impossible. Qu'est-ce qu'on lui donne comme note?
Un bon 2 étoiles.
Ah, moi j'irai à 3.
Ah ouais, carrément.
Ouais, un débat, on se bat ou quoi? Attends, si t'as donné 3 à Nos Batailles, je pense que...
Mais tu n'as pas vu Nos Batailles?
Je n'ai pas vu, je peux pas savoir.
Moi, 2 pour Un amour impossible, c'est bien, parce qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Ce sont parfois des petites choses.
Étoiles, ça reste 2 étoiles, hein. C'est pas 2 sur 10, c'est pas une cotation.
2 étoiles, c'est bien.
2 étoiles, c'est bien.
Donc, mais si tu veux donner 3, libre à toi de donner 3 étoiles.
Non, je donne 2, t'as raison. Il y a quand même moi, j'avais vraiment bien aimé, il m'avait touché ce film. Alors, ensuite, le troisième film, parce que oui, on ne fait que parler de films ici. Hein. On n'est pas en train de parler de news, de Drake avec Millie Bobby Brown, des trucs comme ça sympathiques qui sont apparus dans les journaux cette semaine. On vous parlera de ça la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on sera là. On parle du troisième film, c'est Frères Ennemis. Alors, Frères Ennemis, c'est un film qui sort au cinéma donc, le mercredi 3 octobre, de David Oulofen, j'ai toujours un problème à dire son nom, avec Mathias Connard et Reda Kateb. C'est l'histoire de Manuel et Driss qui ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité en France. Mais aujourd'hui, il y a tout qui les oppose pour la simple et bonne raison que Manuel est à la tête d'un trafic de drogue alors que Driss, lui, est devenu flic.
Pour les stupes.
Pour les stupes en plus. Donc du coup, forcément, est-ce que l'enquête va les mélanger, etc. C'est un peu la relation entre Walter White et son cousin Hank dans la série, sauf que si c'est poussé vraiment à l'extrême, bien sûr. Je propose qu'avant qu'on parle du film, on vous passe un petit extrait de la rencontre qu'on a eue avec Mathias Connard au Festival d'Ostende, où il nous parlait de son film et surtout de sa manière d'interpréter le rôle d'un truand, puisque c'est quand même un rôle qu'il interprète plusieurs fois au cinéma. On avait posé la question. Et voici sa réponse.
Je pense que chaque rôle crée aussi son antipode. Je pense que, par exemple, dans Le Fidèle, c'est quelqu'un qui... C'est un braqueur, mais qui a vraiment fait le choix de devenir braqueur. Il avait envie parce que ça l'excitait. Dans le film, il s'exprime aussi de telle façon. Ici, on a à voir un criminel qui en fait, est devenu criminel à cause de son... à cause du contexte dans lequel il a grandi. Donc il y a un aspect de déterminisme socioculturel, aussi pour le personnage de Driss, en fait, qui pense pouvoir s'émanciper de cet univers en devenant agent de police ou policier. Mais après, on voit aussi que son passé et son contexte social, en fait, le rattrape et détermine sa vie aussi en tant que policier. Donc on voit qu'ils sont tous les deux piégés. Mais je pense que pour moi, ce qui est important quand je joue ce genre de personnage, je suis toujours à la recherche de l'identité de cet être humain. Je ne me dis pas « Ah ouais, je vais jouer un criminel mm-hmm. ». En fait, c'est l'histoire qui crée que je suis un criminel. Moi, je ne dois pas jouer le criminel. Je joue un être humain. Ici, je joue un être humain qui est piégé. Qui s'enfuit de la mort, mais qui a aussi encore un désir de vengeance, un désir de protection par rapport à son enfant et Et sa femme, ou son ex-femme, ou son ex-copine, mais aussi qui a le désir de savoir la vérité, et qui a aussi le désir de se venger. Et en même temps, qui est rempli de douleur, de peur, et ça, je trouve intéressant à jouer. Donc, quand je lis ce scénario, je me dis, j'ai ça à jouer. Pour moi, je me dis, et bien sûr, dans un contexte criminel, mais pour moi, je ne joue pas un criminel.
Voilà, c'était Mathias Kunartz qui nous parlait de sa manière d'interpréter ces rôles-là dans ce film. Justement, toi, Thibaut, qui as vu le film pour le coup, qu'est-ce qui est singulier dans Frères Ennemis ? Qu'est-ce qui ressort le plus ? Parce que l'histoire a l'air un peu classique, on va dire.
Effectivement, elle est très classique.
Je t'ai posé une colle.
Mais ce qui est intéressant, c'est la vision de David Doulofen par rapport à cet univers-là. C'est ce monde très communautarisé. Parce que c'est... On va pas parler de mafia, mais ce sont des Français d'origine marocaine qui importent leur drogue depuis le Maroc. Donc tout ça, c'est un business très familial. Oui. Et quand on est dans cette communauté-là, c'est difficile d'y entrer. Tu vois, donc c'est un monde un peu assez fermé. Comme il y a le monde à côté des policiers, etc. Et Manuel, c'est un jeune qui n'est absolument pas d'origine marocaine, mais qui a vécu et grandi dans ce quartier, et donc qui fait partie de cette communauté, quoi. Et donc c'est pour moi le plus intéressant dans le film, c'est ça, c'est le rapport et le point de vue de David Doulofen par rapport à ces communautés, et donc forcément les croisements entre les flics et le monde des dealers, et donc cette amitié d'enfance qui va se transformer en quelque chose de plus...
Un déséquilibre.
Des ennemis, oui, un déséquilibre qui vont faire que Manuel et Idriss vont devenir ennemis, entre guillemets, vu qu'un est devenu...
Frères ennemis.
Dealer et l'autre flic. Donc voilà, ouais. Frères ennemis, le titre est... On ne peut plus clair.
Mais donc du coup, c'est ce duo d'acteurs qui peut être la surprise du film, la relation entre Mathias et Reda, comment est-ce qu'elle est retranscrite à l'écran ? Ouais,
surprise, non, parce que ce sont deux excellents comédiens qui... Ça ne pouvait que fonctionner entre deux, ça fonctionne super bien entre leurs personnages, ça fonctionne bien entre eux, donc non, c'est pas une surprise quand on connaît le travail des deux. Après... ils sont pas surprenants non plus dans ce qu'ils font. Reda oui. Kateb a déjà joué des rôles relativement similaires, et Mathias Kunartz, le rôle du gangster, c'est quelque chose qui tient quand même bien, comme il vient de nous l'expliquer. Donc voilà, il y a peut-être un manque de surprise en fait dans le film, ce qui est un peu dommage. Cela dit, la mise en scène est très dynamique et elle est stimulante, il y a vraiment des moments de tension assez intéressants. Et le dernier aspect que j'aime beaucoup dans cette mise en scène, c'est un sentiment d'enfermement. Il y a des moments où effectivement sont dans des espaces assez ouverts, etc. Mais globalement, tous les personnages sont dans... C'est pas un huis clos, mais il y a vraiment un sentiment d'enfermement autour d'eux et autour des spectateurs. Donc c'est assez réussi.
Autre chose qui m'avait l'air assez réussi, c'était les scènes un peu plus d'action. Je me rappelle dans la bande-annonce d'une scène de fusillade en voiture, enfin une moto qui s'arrête dans une voiture, qui tire dans la voiture. La scène était très d'un montage très énergétique comme ça, qui avait l'air assez agressif. Est-ce que ça donne bien les scènes plus entre guillemets violentes ?
Elles donnent bien. Il y a aucun reproche particulier à faire à ces scènes-là.
Dans l'ensemble, un film assez classique, que ce soit tout.
Ben voilà, c'est ça. Il y a guère de surprises. Il y a un très bon duo de comédiens qui font extrêmement bien leur boulot.
Oui.
Mais ça s'arrête un peu là, en fait, malheureusement.
Qu'est-ce que tu lui donnerais du coup, à Frères Ennemis, qui, je rappelle, est au cinéma ce mercredi. Hein. On a parlé d'Un amour impossible qui n'est pas tout de suite au cinéma, c'est en novembre. Et Nos batailles, qui lui aussi est ce mercredi au cinéma avec Frères Ennemis.
Bah, Frères Ennemis, une étoile. Ça fait le job, hein. 3-2. Vraiment, il n'y a pas de déplaisir, ça fait le job.
Tout à fait. On parle maintenant d'un film qui est au FIF. Hors compétition par contre, c'est le film qui s'appelle Lola et ses frères, il sortira fin novembre en Belgique. C'est un film qui est réalisé par Jean-Paul Rouve, avec notamment Ludivine Sagnier, pardon, José Garcia et Jean-Paul Rouve, qui parle en fait d'une fratrie. Hein. Il y a Lola qui a deux frères, Benoît, qui est un opticien qui va se marier pour la troisième fois dans ce cas-ci, et Pierre, qui lui travaille dans la destruction de bâtiments, et qui est un homme qui, voilà, c'est un peu ça. Il arrive en retard, il s'occupe de sa vie avant tout. Hein. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour son frère Benoît. Et voilà cette femme qui se retrouve avec ses deux frères qui ont leurs problèmes, qui ont leur manière de voir les choses, qui sont souvent très égocentriques, il faut le dire, pour des raisons différentes. Et elle doit essayer de composer avec ça, quoi, hein, avec ses deux frères. Donc c'est un film, comme vous pouvez le sentir, qui est très familial, très presque d'ambiance. Hein. On est plongé dans cette famille, on voit ce qui se passe et on est pris au cœur. Il n'y a pas une trame, il n'y a pas quelque chose de très clair, quoi, avec un objectif pour un personnage ou quoi que ce soit.
Les objectifs de chacun vont se dessiner assez rapidement, oui, après l'introduction du film, mais on n'est pas dans un gros truc à fil rouge.
Non. Voilà. C'est des frères et sœurs qui pourraient s'éloigner, mais qui du coup vont peut-être se recroiser pour des raisons X, Y dans leur vie de tous les jours, en fonction des situations qu'ils ont, que ce soit par exemple un divorce, que ce soit par exemple un problème relationnel ou un problème de travail. Et donc c'est là qu'on va voir justement cette fratrie se réunir et être complémentaire.
Mais en fait, déjà, la famille est un sujet qui est partout dans le cinéma de Jean-Paul Rouve, en tout cas dans le cinéma qui... Merci pour la référence. En tout cas, pour les films qu'il réalise, c'était déjà très présent dans Les Souvenirs, ainsi que tout ce qui est la mélancolie, la nostalgie. Voilà, ça, ce sont des sujets qui le branchent et qu'il maîtrise. Ici, ce qui est très intéressant au niveau de cette fratrie, c'est que tous les premiers jeudis du mois, ils se retrouvent tous les trois sur la tombe de leurs parents.
Oui.
Et ce qu'ils font, alors ça dure pas très longtemps, hein, ça peut durer 2 minutes comme ça peut en durer 5 ou 10.
Ils font le débrief en fait, hein, ils profitent de ça pour parler.
Ils font le débrief de leur vie, quotidienne. Aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un, voilà.
Il y a des frères et sœurs qui iraient au resto tous les mois ou quoi, bah eux ils vont devant la tombe. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ça se termine toujours par au revoir papa, au revoir maman. Voilà. Et donc ça, je trouve ça assez génial, ce point de départ. Et ce qui est très fort, c'est vraiment la relation entre ces trois frères et sœurs. Il y en a qui n'hésitent pas une seule seconde à parler de leur galère, de ce qui va pas dans leur vie, de ce qui va bien. Et il y en a qui ont plus de mal à parler de leurs problèmes, donc forcément, ça peut créer d'autres problèmes, quoi.
Mais clairement.
Je trouve que c'est un film très réussi, qui aborde, qui est très sensible, mais jamais niant, jamais
non,
nié.
Jamais. Pourtant, il y a des scènes qui pourraient l'être. Hein,
tout à fait.
Le mec se marie pour la troisième fois. Tu te dis, oulala, ça peut être gros comme un camion ici. Et pourtant, il y a de la subtilité. Et notamment, je trouve que le personnage interprété par José Garcia, alors pourtant, José Garcia, c'est pas mon idole, mais il était très juste, quoi, hein, très très bon dans son rôle de type vraiment fermé sur lui-même, qui a du mal à s'exprimer, a du mal à faire face à ses problèmes aussi.
Et tout le casting est génial. Hein.
Ouais, c'était très très bon ça. C'était une grosse surprise de la part de Jean-Paul Rouve dans la réalisation. Notamment, il y avait Ramzi Bedia aussi dans le film.
Qui est très très bien aussi.
Qui est très bon aussi, tout en simplicité, tout en vraiment en émotion, mais sans en faire des tonnes. Ce qui n'est pas facile pour un Ramzi. Donc c'est pas mal, franchement. C'était très impressionnant ça.
Quand on regarde bien son. En tout cas, au niveau des acteurs, donc des hommes, ce sont trois comédiens issus de la comédie. Jean-Paul Rouve, José Garcia, Ramzi Bedia sont vraiment trois gars qui sont habitués aux comédies bonnes et mauvaises, mais qui, dès qu'ils se retrouvent dans le drame, sont excellents. Et Jean-Paul Rouve avait déjà fait assez fort avec son film Les Souvenirs, avec Annie Cordy. Il est très fort dans le drame, et une fois de plus, il montre qu'il fait ça super bien, quoi.
Bah, Jean-Paul Rouve a un peu cette espèce de tête de clown triste, hein, donc je pense qu'il combiner le drame et la comédie, c'est tout à fait son truc.
Complètement.
Et dans ce cas-ci, il y a quand même plus de comédie que de drame, faut le dire. Hein. C'est plus drôle que dramatique.
Oui, mais c'est parce que la tonalité est très bien trouvée.
Oui.
Il n'y a pas de décalage énorme. Franchement, je trouve que c'est vraiment très équilibré et ça donne quelque chose d'hyper fluide et super, super agréable à regarder et à manger, en fait.
D'ailleurs, il parlait de ça une fois, il disait...
On en redemanderait presque. Hein.
C'est un film TF1, tout comme Les Tuches.
Produit par TF1, oui.
Et Jean-Paul Rouve disait que, bah, justement, il faisait Les Tuches parce qu'il savait que derrière, il allait pouvoir financer ses films... Comme Lola et ses frères, qui ça c'est clairement du contrat. Ça c'est tu fais encore deux tuches et tu peux faire ton film.
C'est Michael Bay, hein.
Exactement. Mais bon, voilà. Mais si c'est pour vous comme ça, continue à faire les tuches. Il y a pas de problème.
Oui. Je les regarderai toujours pas. Hein, mais...
c'est bien au ski. Tu mets une petite tuche dans la voiture ou quoi.
Ouais.
Donc voilà. Non, clairement, Lola et ses frères, une très très bonne surprise qui arrive fin novembre sur nos écrans, ouais. Qui est en hors compétition ici, mais qui aurait pu l'être. En compétition.
Et qui peut toucher tout le monde, hein, parce oui. que ce sont des problématiques familiales, personnelles, de boulot, d'argent, des trucs très classiques.
Et c'est pas un film inaccessible, mais, hein, on n'a pas des sujets familiaux où on se dit oh là là, ça y est, ça va être un drame. Où on va...
Et c'est quelque chose qui non, peut plaire vraiment à tout le monde, hein, autant des ados que des personnes âgées, que des pères de famille. Voilà. Ça peut vraiment plaire à un public très large.
Exactement. Donc qu'est-ce qu'on lui donne à Lola ses frères? Personnellement, je lui mettrais 3 étoiles.
Ah oh ben pareil.
Boum.
Allez,
écoute Jean-Paul Rouve, bien joué.
Bien joué, bien ouais, JP.
Bien ouais, JP.
JP.
JP, on va en parler plus tard d'ailleurs de JP pour une autre raison, vous allez voir. Et si on parlait maintenant d'un peu de cinéma américain? Parce que là, pour moi, là, mon corps tremble, on a fait un peu trop de cinéma européen et français et belge. Donc là, je me sens très mal, j'ai besoin de parler de trucs qui pètent. On va reparler après un peu de cinéma français, vous inquiétez pas. Mais de Predator. Alors, ça, chers amis, je sais pas si vous avez vu les bandes annonces ou les posters. Mais ça a l'air un peu pourrave, alors que pourtant, il y a de quoi faire, hein. Je veux dire, c'est une histoire connue, hein, avec les pires prédateurs de l'univers, et il faut envoyer une équipe pour aller les tuer, les massacrer ou autre. Réalisé par Shane Black, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est lui qui a fait Iron Man 2 et 3, s'il me semble.
1 et 3.
Non, 1 c'est Jon Favreau.
Oui, juste le 3, Shane
le
Black.
3, le 3.
Qu'est-ce que je raconte?
Shane Black, il avait fait quoi? De Nice Guys aussi.
De Nice Guys, Kiss Bang Bang.
Oui.
Donc, il a fait de bonnes choses.
Assez notable.
Et il jouait dans le premier Predator, le film original de 87.
Et donc ici, l'idée, c'est d'envoyer donc un équipage d'anciens soldats pour aller faire la fête à ce Predator. Mais alors, il y a déjà un truc qui inquiète, hein, c'est le casting.
Mmh.
On n'a pas de tête d'affiche. On a Boyd Holbrook, on a Trevante Terrose, on a Olivia Munn. Bon, c'est pas des. Allez, ils sont bien, hein, mais s'ils démarrent une série Netflix demain en tête d'affiche, ça pourrait le faire. Mais pour un film, tu te dis, tiens, ça manque un peu, c'est un peu maigrichon. Et puis, c'est un film qui a été tourné ultra rapidement. Il y avait encore des photos sur notre Instagram, j'ai vu il y a quelques mois encore du tournage. Donc, ça sent le film très rapide. Et j'ai l'impression, on en a un petit peu parlé, j'ai pas vu le film, que ça se confirme, c'est pas une grande réussite.
Je te le confirme. c'est pas une grande réussite.
C'est pas une grande réussite, ça a l'air un peu un nanar.
D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il y a de réussi dans le film. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Alors, quand tu parlais du casting, effectivement, il n'y a pas de grosses têtes d'affiche. Cela dit, ce sont tous des acteurs qui sont présents dans le métier depuis... plus ou moins longtemps, et ou qui sont en train de bien monter depuis un petit temps. Oui. Style Trevante Rhodes, il était présent dans Moonlight, c'était un des 3 acteurs principaux de Moonlight. Boyd Holbrook, on l'a vu dans pas mal de franchises, Olivia Munn dans pas mal de séries, dans oui. Le dernier X-Men
Newsroom,
aussi.
Etc.
The Newsroom, exactement. Donc c'est un casting relativement sympa. Il y a Alfie Allen aussi, le frère de Lily Allen, qui joue dans Game of Thrones. Enfin voilà, il y a un bon petit casting. Mais ça fonctionne pas. Leurs personnages pas, en fait. Sont déjà pas terribles. Alors, pour parler de l'histoire, déjà il y a une navette avec un prédateur qui atterrit sur Terre, qui s'écrase sur Terre, devrais-je dire, parce qu'il est poursuivi par un immense vaisseau. Ouais.
C'est le 2, ça.
Et puis ils vont se... Non, t'inquiète.
Le prequel. Non,
pas encore.
Okay.
Non.
Il n'y aura rien du tout.
Et il va y avoir une altercation entre des soldats qui sont en mission au Mexique et le prédateur qui s'est écrasé. Mm-hmm. Les autorités américaines vont le capturer, machin. Ils vont le mettre dans une base privée secrète pour essayer de l'analyser. Enfin, tu vois. Ils ont la connaissance des prédateurs depuis un petit moment, vu qu'il y a eu le premier film et puis les suites, etc. Donc, ils sont au courant. Et les choses vont dégénérer. Le vaisseau qui poursuivait le prédateur va aussi arriver sur Terre. Il va y avoir un gros bordel. Et au milieu de tout ça, il y a une équipe de bras cassés, en fait, qui sont tous des soldats qui sont devenus un peu fous. Qu'on est censé emmener en prison, à l'asile ou je sais plus, enfin soit.
Donc c'est quoi,
et qui vont se retrouver mêlés à tout ce bordel, quoi.
C'est Suicide Squad qui pourrait battre un Predator, c'est ça le concept ?
C'est un peu ça. Mais le truc, mais du coup, c'est que le attends, je termine rapidement sur l'histoire. Le sniper qui était dans l'équipe qui a vu le Predator au tout début du film a piqué une partie de son équipement et l'a envoyé chez lui. Et du coup, c'est son fils autiste qui joue avec. Voilà. Et donc, forcément, il y a un moment, le prédateur, il va vouloir récupérer son matos. Quelle est la cible ? Le fils, hein,
oui.
Qui est joué par Jacob Tremblay. Je n'en peux vraiment plus de voir ce gosse. Sa tête m'énerve à souhait.
Tu es en train de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller voir le film, en fait ?
Oui, exactement. Okay. Exactement.
Mais tu faisais déjà bien le travail depuis quelques minutes.
Oui, je m'en doute. Je ne me gêne pas.
C'est quoi le but ? C'est une grosse farce, c'est une blague. Je vois qu'il y a Keegan Michael Key dans le film, qui est donc de Key & Peele, qui est clairement le bouffon des deux. Et donc quoi, il y a au moins il y a ça qui réussit. Il y a le côté blagounette ou
Bah oui, à la limite.
C'est pas de nice guys dans l'espace, quoi. Tu vois,
non,
c'est pas
non. Il y a un petit côté blagounette sympa, mais qui est présent dans tous les films américains. Et voilà. Après. Alors tu vois qu'ils ont essayé d'apporter un vrai côté mythologie Predator qui avait pas spécialement dans le premier, enfin qui avait pas du tout dans le premier. Et les suites, je m'en rappelle pas. Je pense que j'en ai vu une.
C'est assez anecdotique.
Et puis après les autres, je sais pas. Hein. J'ai pas vu Alien vs Predator, en tout cas, ça c'est certain. Ici, voilà, ils essaient de faire quelque chose au niveau de l'histoire mais, et de la mythologie autour du personnage du Predator, mais pour le reste,
c'est maigre.
C'est pas très amusant, quoi. Non. C'est pas. Non, vraiment très 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 dispensable.
Très 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 dispensable. Bon ben voilà, écoute, qu'est-ce que je te dise, on va pas parler plus longtemps d'un film dont on n'a pas envie de parler.
Même pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est qu'il n'y a absolument aucun intérêt.
Il y a rien à dire. Donc
tu te demandes pourquoi ils ont fait ce projet, quoi.
De enfin, Predator.
Et la question est, la réponse est toute trouvée.
Ah, tu crois vraiment que c'est pour essayer de construire un univers autour du film ?
Non, c'est pour l'argent.
Ouais, bon, tu vois,
surfer sur le truc du Predator comme ils ont essayé de faire il y a je sais plus combien
terminer d'années. La marque, quoi.
Bah pas terminer, mais ils essaient de relancer des trucs,
ouais,
comme ils font souvent, et vraiment bah ça sert à rien, parce que Shane Black, vu qu'il a joué dans le premier, il se croit peut-être le gars qui était tout trouvé pour réaliser un nouvel épisode,
ouais.
Mais si certaines idées qui sont derrière sont pas inintéressantes, je trouve que le début du film est plutôt pas mal. Après, ça devient n'importe quoi et ça n'a plus aucun intérêt, quoi.
Écoute, zéro alors, je suppose.
Ouais.
Direct au DVD, quoi. C'est ça le concept, ok. Donc de Predator. Ensuite, on va parler maintenant d'un film en compétition. On va parler encore de plusieurs films. Il y a Chien de Garde dont on va parler, il y a A Star Is Born, et puis on va terminer sur une petite note d'humour. Je propose avec Voyez comme on danse, la suite de Embrasser qui vous voudrez, parce que moi je l'ai pas vu, tu l'as vu, j'ai très envie que tu m'en parles.
Eh ben on peut.
Parce que j'ai adoré le premier, donc voilà, je voulais conclure là-dessus.
Très bien.
Parlons tout de suite de Chien de Garde, c'est un film qu'on vient de voir maintenant là tout de suite.
Il y a
une petite heure. Tabernacle.
Non,
pourquoi non, je le fais pas bien.
Non, vraiment pas.
C'est un film québécois. Et c'est un film en compétition pour la compétition du premier œuvre, premier film donc pour Sophie Dupuis. Réalisatrice avec notamment Théodore Pellerin, Jean-Simon Leduc, c'est des gens que vous ne connaissez pas.
Et que nous ne connaissions pas non plus.
Non, mais vous allez
pas faire semblant.
Vous allez peut-être un jour les connaître parce que ça frappe très très fort. Alors de quoi ça parle, Chien de Garde ? Ça parle de JP, c'est JP, alors peut-être c'est Jean-Paul, Jean-Philippe, on ne sait pas. Et son frère Vincent. Vincent qui est impulsif, instable, hyperactif et peut-être même un petit peu retardé, hein, quand même, il faut le dire. Qui font un peu les cons à Montréal, ils traînent avec des mauvaises personnes, ils vont chercher de l'argent pour des mafieux locaux et des trucs comme ça. Ils vivent dans un appartement avec leur maman qui est un peu alcoolique, ou en tout cas elle essaie d'arrêter d'être alcoolique, mais ça se passe pas très bien. Et voilà que JP, qui lui, entre guillemets, va bien, c'est un homme qui essaye de se mettre dans le droit chemin, il fait des études hein, pour être électricien. Anne Copping, qui s'appelle Mel, qui elle veut déménager, donc partir un peu de ce bled et construire sa nouvelle vie ailleurs. Et donc du coup, ça veut dire partir de la maman alcoolique et partir aussi du frère qui est turbulent. vous comprenez bien que le GP en question voudrait le faire, mais ne pourrait pas le faire parce que c'est un peu justement le chien de garde de la famille. C'est lui qui s'occupe de tout, c'est le papa, entre guillemets. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est ça l'histoire. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Personnellement, j'en sors très surpris par ce film. Alors, un grand chapeau à Sophie Dupuis.
Tu en trembles encore
parce... Oui, franchement, j'ai vraiment bien aimé.
Effectivement, c'est une très très belle réussite et je comprends tout à fait que le film ait été choisi pour représenter le Canada aux Oscars. Parce que c'est vraiment une très belle réussite. Alors, ce qui est frappant, c'est... ce sont les comédiens avant tout, quoi. L'histoire, bien sûr, hyper intéressante et on peut développer là-dessus après. Mais vraiment, ce qui m'a frappé sont les comédiens qui jouent tous avec une extrême justesse, qui sont vraiment impressionnants. Ils ont tous des gueules incroyables, oui. Que ce soit JP, que ce soit Vincent, il est hallucinant. La mère aussi, elle a un petit côté Mélissa Léo, pour ceux qui connaissent bien. Mère à problème, alcool, etc. Elle a pas mal de soucis. Elle essaye de faire plaisir à son fils Vincent, qui de toute façon c'est difficile de lui dire non pour quoi que ce soit, parce qu'il fait quand même à peu près ce qu'il veut. Il est tout le temps dans l'énergie. Il veut tout le temps faire quelque chose.
Il est hyper actif. Il a deux doigts du gouffre aussi. Hein. Tu sens le type qui peut valser à tout moment. Hein.
C'est exactement ça. Il est toujours. Je ne vais pas dire à fleur de peau, mais il suffit de pas grand-chose pour le faire démarrer et le faire partir en vrille. Quoi. Donc c'est une personne qui est très difficile à gérer et ça doit être épuisant, oui. Tant pour JP que pour la mère. Donc vraiment, c'est un personnage pas facile à gérer.
Bah, la mère qui est épuisée d'ailleurs, hein, puisqu'elle est
complètement
alcoolique. Enfin, elle était alcoolique et donc elle essaie de se... Voilà, mais c'est pas facile parce qu'à chaque fois, en effet, tous les soirs à 5h du matin, tu as ton fils hyperactif qui débarque et qui fout le bordel. Enfin,
qui rentre de soirée en criant, qui rentre dans la chambre de sa mère. Ah maman, tu faisais dodo? Bah ouais.
Mais c'est ça. Une fois que je suis avec toi, hein, tu sais que t'es belle, t'as des beaux yeux. Enfin, des trucs comme ça un peu bizarres, tu te dis oula. Mais oui, ça existe. Et donc, pour moi, ce qui m'a le plus troublé en ce film, c'est que c'est tellement réaliste qu'on a l'impression d'être dans un documentaire. Donc ils se sont vraiment bien imprégnés de ces streets de Montréal entre guillemets et de cette impression d'être dans une famille un peu vraiment
borderline
avec ces soirées où t'as pas envie d'aller avec des rappeurs et des trucs comme ça, et enfin c'est vraiment assez malaisant. Les scènes malaisantes sont très très bonnes, je trouve,
ouais.
Notamment ouais. Grâce au personnage de Vincent,
ouais. Et il faut dire que le job de JP et son frère, c'est d'aller collecter, d'aller racketter des gens.
Oui, à côté de ses stages d'électricien.
Ouais, il est en école d'électricité, je crois, effectivement. Mais il gagne sa vie en faisant des raquettes pour son oncle qui gère un bar et...
qui n'est pas fréquentable. Vous voyez genre de personne qui a des cheveux gommés en arrière, comme ça, et des vestes en cuir.
C'est ça.
Exactement
ça. Et donc voilà, ils ont un job qui est... qui n'est pas recommandable du tout. Donc ils ont une vie un peu compliquée parce que on voit qu'il y en a un qui, enfin JP commence un peu à en avoir marre, même si au début on se dit presque qu'il fait ça avec plaisir quand on voit les premières scènes de raquette. Et puis en fait on voit qu'il aimerait vraiment sortir de ce truc parce qu'il y a sa copine qui habite avec eux. Elle va déménager, mais elle habite avec eux. Elle en peut plus de la famille de fous. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments.
Ce qui se comprend un petit peu quand même.
Ce qui se comprend, ouais, vraiment, je pourrais pas non plus.
Ah oui, je partirais bien.
Je crois que 3-4 jours là et déjà t'en as marre.
Mais c'est difficile pour lui parce que ça veut dire vraiment retourner sa veste, hein, de dire voilà, j'abandonne ma mère et mon frère, ma mère qui a besoin de moi, mon frère qui a besoin de moi aussi.
C'est pas facile comme décision.
C'est clair que là c'est un sacrifice d'ailleurs, voilà, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le fait pas, c'est la question du film. Avec notamment comment est-ce qu'il le fait, parce que s'il décide de partir, comment est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va partir avec un bang, est-ce qu'il va partir en faisant autre chose, c'est un peu ça la question du film aussi,
ouais.
Donc je trouve qu'il y a une tension qui se crée parce que dès le départ on se dit c'est très instable comme situation, donc s'il y a quelqu'un qui enlève la prise, il y a tout qui va partir, quoi. Et donc c'est ça le stress du film, mais c'est vraiment bien pensé.
Ce qui est très bien, c'est qu'on t'as l'impression qu'au final le film parle peut-être de pas grand chose. Mais il y a pas mal d'arcs narratifs qui sont dedans au final, parce que chaque personnage a ses problèmes et doit les gérer. Donc le film parle de quand même pas mal de choses et il le fait très très bien, avec beaucoup de justesse. jamais de... jamais contre... jamais dans le jugement. C'est ça qui est très important aussi, parce que si la réalisatrice commençait à juger ses personnages, là, on serait tombé dans un truc très déséquilibré et raté. Et là, non, il y a vraiment énormément de justesse, donc c'est vraiment très réussi. Et franchement, je trouve que niveau mise en scène, niveau tension, il y a déjà du beau boulot. Donc pour un premier film, c'est assez remarquable.
Ça ne m'étonnerait pas qu'on entende parler de Sophie Dupuis très prochainement, que ce soit au cinéma canadien, au cinéma américain, parce qu'elle a vraiment un potentiel pour raconter des histoires avec une tension. Alors que faire de la tension sans sag, sans action, sans scène de violence, sans avec bêtement des personnages et des dialogues, c'est quand même dur. Et donc elle arrive à faire ça, et surtout à nous ancrer dans cet univers de Verdun, apparemment c'est le nom du quartier à Montréal, qui a l'air bien pourri, hein, cela dit. mais voilà, ça a l'air vraiment de la zone, quoi. Et donc c'est, alors qu'on entend toujours parler de Montréal et du Québec comme étant le nouvel Eldorado des francophones. Voilà, oui. c'est assez particulier. Mais donc c'est vraiment une belle surprise, un petit pépite de mise en scène de la part de Sophie Dupuis.
Ouais.
Grand chapeau. On t'applaudit.
Super casting.
Même si on ne le fait pas pour les micros.
Oui.
Du coup, qu'est-ce que tu... D'ailleurs, juste pour savoir quand est-ce que ça sort. Ça sort le 14 novembre en Belgique, comme ça vous êtes au courant. On en reparlera bien sûr quand la semaine arrivera. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme cote à Chien de garde ?
Bah, bon 3 étoiles aussi.
Ah, bon 3 étoiles aussi. C'est tout à fait mérité pour Sophie Dupuis, qui sera peut-être nominée aux Oscars. On va savoir ça très prochainement. Je ne sais pas quand est la liste, mais... décembre, janvier,
ça se fait en plusieurs étapes.
Oui.
Il y a une première restriction à je sais plus combien de pays, et puis on passe à 9. Alors, ouais, je sais plus si on passe directement à 9 et puis à 5, ou s'il y a encore une étape entre tous et les 9, tu vois.
Ils avaient déjà fait la sélection, je pense, la première.
Non,
ouais.
Non.
Pourtant, on avait dit qu'il n'y avait pas de film français aux Oscars cette année.
On n'a jamais dit ça.
Ah, ok, j'ai cru entendre ça une fois, mais c'est faux. Parlons du coup d'un autre film qui risque d'être au Golden Globes, en tout cas. Hein.
Oui.
Ça, c'est sûr. Aux Oscars, peut-être. Puisqu'il y a un petit buzz autour de ce film depuis qu'il a été montré à Venise. C'est bien ça.
Mais il a surtout un buzz aux États-Unis parce que les Bradley Américains Cooper, raffolent ce genre de truc.
Ouais.
En Europe, je pense que ça fonctionnera un peu moins. En tout cas, la presse ne sera pas aussi dithyrambique.
En termes de, entre guillemets, de recettes financières, ça va mieux marcher aux États-Unis, ça, c'est sûr et certain.
Bah oui.
Ça s'appelle A Star Is Born. C'est un film qu'on a déjà vu, puisque c'est un remake. Hein. C'est pas la première fois qu'on raconte cette histoire-là. C'est un film réalisé par Bradley Cooper. Bah, oui, Bradley Cooper de Very Bad Trip. Avec notamment Lady Gaga dans le rôle principal, sans maquillage. Attention, ça vaut la peine d'aller voir ce film pour ça aussi.
Au début du film, en tout cas.
Au début du film. Du coup, Bradley Cooper qui joue également dans le film, qui joue en fait une star de country un peu oubliée. Ça lui va très bien, je trouve. Qui découvre un jeune talent, enfin une jeune femme prometteuse qui est Lady Gaga, qui s'appelle Ali dans le film. Et il tombe un peu amoureux, comme on peut dire, mais et Jackson va aider Ali à devenir une star. D'où le titre du film, Star Is Born. Exactement.
Le
mélange du vieux et de l'ancien, quoi, c'est un peu ça.
Bah oui, mais c'est un schéma classique, c'est l'ancienne star un peu has-been qui va épauler.
La petite Jeannette.
Une personne plein de talent qui a le potentiel pour exploser. Et c'est revu. Et ça passionne jamais, en fait. C'est assez ennuyeux.
C'est ennuyeux, c'est Strass et Paillettes, ou c'est parce que dans la bande-annonce, on se fait très chaud à l'américaine. Alors, quoi, hein. On fait de la musique à Glastonbury.
Oui. C'est pas à Glaston, mais...
J'ai lu, hein, dans Première, ils ont tourné ça à Glastonbury.
Ils ont peut-être tourné à Glastonbury, mais ça se passe pas à Glastonbury. Enfin, soit
non,
ça
mais
se
y
passe
y a
dans des festivals,
quoi,
voilà. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant, du coup.
Tu es surpris, parce que dès qu'on parle musique, t'es parti, toi.
Oui, alors, non, je voulais dire, oui, les musiques sont très très bien. Mm-hmm. Ça, c'est une des réussites du film.
Acheter la bande-son.
Une des peu... des rares réussites du film, j'ai envie de dire. Donc déjà, au-delà du fait que l'histoire est pas hyper passionnante, il y a le fait que Bradley Cooper est pas un réalisateur du tout.
Ça se sent, ça ?
C'est le béaba de la réalisation, quoi. Ça, il pose sa caméra...
champ contre champ.
Champ contre champ, et voilà. Ça dépasse jamais. C'est pas mauvais, mais ça n'a aucun...
Il n'a pas engagé un chef-op
Bah ouais, si t'as un bon chef-op et tout, c'est bon, mais ici, franchement, y a rien de remarquable. On va pas, c'est pas en regardant ça qu'on va se dire « Waouh, wow, Bradley Cooper, super réalisateur !» Non. Non. Après, il fait pas un job honteux, il fait juste le strict minimum, quoi.
Ouais.
Donc ça, voilà, problème. Par contre, autre réussite, Lady Gaga. Excellente. Elle est vraiment excellente dans le film, particulièrement au début où elle joue la fille qui est pas connue du coup.
Bien sûr.
Elle est magistrale. Hein. Elle a écrit toutes les chansons avec Bradley Cooper pour la plupart. Son personnage à elle est absolument, est bien. Sauf qu'elle tombe aussi un peu dans les clichés forcément. Il y a un moment, voilà.
Par rapport à quoi tu veux dire les clichés?
Bah, au monde de la musique, la fille qui renie un peu son univers pour aller faire... Parce qu'en fait, elle chante des chansons hyper, hyper touchantes, intéressantes, etc. au début.
Oui.
Et puis une fois qu'elle devient une star, bah...
Elle fait du commercial.
Elle devient la reine de la pop commerciale. Alors tu vas me dire... Je vais pas dire que c'est Lady Gaga qui joue Lady Gaga. Je pense que Lady Gaga est mieux que le personnage qu'elle joue ici, tu vois. Et en tout cas, plus intéressant et plus complexe. Mais c'est juste dommage de tomber dans ces travers ridicules, quoi.
Ouais. Mais bon, c'est aussi un peu la manière pour Bradley Cooper de remettre le truc au goût du jour, je veux dire, de faire la pop contemporaine.
Oui, mais était-ce nécessaire?
Non, je ne sais pas. Je ne pense pas. Le film était nécessaire déjà de base.
Bah non, c'est dommage. Bon. C'est dommage.
Voilà.
Ça n'a pas de. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça.
Ok.
C'est. Mouais.
Un gros mouais, par vraiment, contre. Dis mouais, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vouloir aller voir ce film.
Bien sûr, il y en a qui vont adorer. J'ai vu des commentaires.
Pour notre amie Lady Gaga,
Mais alors, ça vaut le coup d'aller le voir pour elle. Parce que vraiment, au cinéma, elle n'a jamais eu de rôle aussi important.
Oui.
C'est son premier rôle. Elle a déjà eu des espèces de caméos, notamment dans... comment dire... Sin City 2, par exemple... Enfin voilà, elle a eu quelques trucs, mais jusqu'à présent, elle a rien eu d'absolument remarquable parce qu'on lui a jamais proposé des choses. Enfin, je pense pas qu'on lui ait proposé vraiment des premiers rôles au cinéma.
Non.
Et ici, vraiment, elle fait ça super bien. Donc, s'il y a une raison pour aller voir le film, c'est ça. C'est Lady Gaga et les musiques qui sont assez cool. Voilà. Donc, faut quand même laisser ça au film, mais ça ne vaut pas plus d'une étoile.
Star is Born, une étoile.
C'est une étoile, c'est pour Lady Gaga.
C'est pour Lady Gaga. Dernier film, du coup, avant de clôturer cette émission en parcourant les films qui sortent cette semaine, c'est Voyez comme on danse.
Alors, Michel Blanc.
Voyez comme on danse de Michel Blanc, suite, après 10-15 ans, je pense, de Embrasser qui vous voudrait, qui était un film toujours avec Michel Blanc, et avait également, que je me rappelle, Paula Dilès, non ? Darousse, non.
Podalides,
ouais.
Je pense que Podalides était dedans.
Oui, hein, Karine Viard.
Il y avait Karine Viard, Lou Doyon, il y avait, j'allais dire Roche Dizem, non, pas Roche Dizem, l'autre, Samy Bouajila.
Ouais.
Il y avait Michel Blanc, il y avait Mélanie Laurent, oui, Gaspard Ulliel, c'était un gros casting.
Oui, c'était un peu un Plus belle la vie à la plage.
Jacques Dutronc, Charles Trampling, ouais. Voilà.
C'était, bon,
Carole Bouquet.
Plus belle la vie à la plage, c'est un peu méchant, mais
oui,
c'était en gros... Cette espèce de mélange qu'on peut avoir entre les différentes générations, pas générations, différents milieux sociaux qui vont ensemble en vacances au Touquet. Et
les deux, générations et milieux sociaux, ouais, c'était vraiment des relations amoureuses entre, c'était pas la grosse partouze, hein, mais...
Ça parle beaucoup de sexe quand même. Hein.
Ah bah bien sûr.
Michel Blanc.
Ça parle énormément de sexe, mais voilà, c'était les relations amoureuses entre des personnes de... début du troisième âge, quarantenaire, etc. Il y avait des ados, il y avait un peu de tout, et puis c'était un qui couchait avec sa secrétaire, l'autre avec machin et tout. Et c'était plutôt pas mal.
C'est sympa.
C'était plutôt pas mal. Je pense que vacances, les gens gardent un bon souvenir du film. Et voilà que Michel Blanc a décidé de faire une espèce de suite.
Mmh. Nouveau casting.
Pas complètement, il y en a beaucoup du casting original qui sont là.
Il y a Jean-Paul Rouve qui est là maintenant.
Alors, il y a des acteurs qui sont dedans qui n'étaient pas dans le premier film. Notamment Jean-Paul Rouve, William Lebgill, qui joue son fils. Alors, dans les nouveaux qui sont là, je ne sais plus trop les autres comme ça, de mémoire. Mais il y a pas mal de retours. Jacques Dutronc, Charles Trampling, Carole Bouquet, Karine Viard sont là.
Mais ça fait un peu... Il y a beaucoup de monde quand même. Peut-être un peu trop de monde maintenant.
Non, ça va, ça va. J'ai l'impression que c'est un peu plus équilibré peut-être. C'est un peu moins la foule. Alors, il n'y a plus trop la surprise du premier, mais je pense que les gens iront voir ce film avec plaisir pour retrouver quand même certains souvenirs.
Il y a toujours le côté un peu romantique, histoire d'amour,
bien
histoire
sûr.
De pète.
Il y a des histoires de tromperie, de trucs, voilà, bien sûr. Mais il y a une certaine légèreté, alors il est moins prenant que le premier, peut-être un peu moins intéressant. Mais en voyant ce film, tu repenses au premier, t'es content de retrouver les personnages, okay. etc.
Bah, c'est parce qu'ils ont attendu 10 ans entre les deux, donc du coup, il y a un peu de nostalgie.
Presque 20, hein.
Ouais, c'est ça.
Y a un je côté crois qu'on était au début des années 2000, peut-être 99, 2000, 2001. Donc oui, presque 20 ans.
Mais à côté de ça, est-ce que le film raconte quelque chose? Mais c'est de nouveau un peu un joyeux bordel pendant une heure et demie avec des bonnes blagues.
C'est un joyeux bordel avec des bonnes blagues, mais non, il y a quand même des choses intéressantes sur les relations, sur... Il y a un peu plus de jeu aussi, des personnages qui essayent d'en piéger un autre, tu vois, donc il y a... Mmh. Y a un peu de jeu, ce qui est assez intéressant, assez amusant. Donc c'est pas... Il va pas laisser un souvenir impérissable, mais il y a... On retrouve une certaine...
Une joie, quoi, à voir ce film.
Une certaine joie à retrouver, notamment certains personnages, et voir ce qu'ils sont devenus, voir ce qu'ils deviennent, s'ils ont changé, s'ils sont toujours les mêmes, voilà, donc... En ça, c'est assez sympa. Et personnellement, je l'ai vu, j'ai pris du plaisir. Je le reverrai sans doute pas, tu vois.
Ouais.
Alors que j'ai pas revu le premier avant, j'aimerais... Il faudrait quand même que je le revoie.
Mais, le premier qui est très bon.
Pardon ?
Le premier qui est très bon, mais qui oui. Voilà, c'est nouveau, c'est un film qu'on voit, et deux ans après, est-ce qu'on s'en souvient ? Pas spécialement, à part si quelqu'un nous en parle, quoi.
J'ai quand même pas mal de souvenirs du premier, hein, je t'avoue.
Ouais ?
Ouais.
J'ai vu il y a genre quelques mois, c'est peut-être pour ça, mais...
Ah oui, oui. Non, non, moi je crois que je l'ai pas revu depuis 10 ans au moins.
Oui.
Facilement, voire plus. J'ai quand même encore pas mal de souvenirs, notamment
une passage scène de Michel Blanc
dans les dunes
chiant,
mais... avec Gaspard Ulliel et Mélanie Laurent, une scène de sexe dans une baignoire avec Loudoyon et
oui,
Samy Bouagi,
Charlotte
Rampling et le petit jeune, enfin voilà, il y avait pas mal de choses, j'ai quand même pas mal de souvenirs du film, tu vois, mais celui-ci m'en laissera sans doute moins.
Bon, donc c'est une
malheureusement
suite. Elle fait plaisir, mais est-ce qu'elle est réussie pour autant, bof.
Non, c'est pas raté. On peut pas dire que ce soit raté. Moi, je trouve ça assez réussi.
Mm-hmm.
Mais voilà, il y a... C'est pas le meilleur film de Michel Blanc.
Non.
Mais c'est amusant, c'est bien foutu. Ça reprend des choses qu'on aime bien, et c'est pour ça qu'on va le voir, et qu'on prendra du plaisir en le regardant, voilà, tout simplement.
C'était notre...
Et c'est un petit...
Oui, note, pardon, excuse-moi.
Ah, ouais, allez, je vais monter à 2 étoiles.
2 étoiles,
parce
quand
que
même.
C'est... Franchement, on prend pas de déplaisir, voilà.
Écoute, voilà, on s'ennuie pas plaisir. Trop. Ça fait plaisir, un bon petit... Ouais, pas mal, hein, franchement, pour l'instant, les comédies françaises, ces temps-ci, on en voit des bonnes, donc...
Il y a de bonnes choses.
On se fait plaisir, on a parlé donc du coup de Nos Batailles, Un Amour Impossible, Frères Ennemis, Lola et ses frères, The Predator, Chien de garde, Star is Born... Et voyez comme on danse, ça fait quand même un total de 8 films.
Donc oui.
Une bonne grosse émission. On a essayé de condenser tout ça pour rester dans le format d'une heure quand même, pour pas faire un truc de 2 heures, parce que sinon ça aurait été un peu
oui,
un
on
peu
aurait
long.
Pu s'étendre beaucoup plus sur certains films. Hein,
voilà, mais on va revenir dessus de toute façon pour la plupart d'entre eux. Pour la moitié en tout cas.
Pour ceux du FIF sans doute.
Oui, pour la moitié. Voilà. Passons en revue des sorties de la semaine du coup. On a Nos Batailles de Guillaume Senez avec Robert Duris. On en a parlé.
Il y en a dit 3 étoiles.
3 étoiles. C'est un des bons films du FIF pour l'instant. Harry Gruyère, ou Gruyart, c'est un documentaire.
Avec ton accent flamand, c'est.
Ah oui, c'est un film.
T'en fais un feu.
Harry Gruyart
Non,
mais voilà.
Harry Gruyart.
Gruyart, tiens.
Gruyart, oui.
On n'a pas vu. De Predator, on en a parlé. Une petite daube, quand même, faut le dire, faut préciser.
Une bonne petite daube.
Amine, un film de Philippe Faucon avec Emmanuel DeVos.
Pas vu.
Pas vu, forcément. The Harry Prince de Rupert Everett avec Rupert Everett et Colin Firth.
Pas vu.
Pas vu non plus. Ah
à la 2.
À la 2. À la 2 avec Kev Adams et Jamel Debbouze. Ben voilà, je pense que c'est pas besoin d'en parler.
De toute façon, on ne l'a pas montré à la presse. Hein.
On ne l'a pas montré à la presse. On a fait des avant-premières. J'ai vu Rencontre oui, Kev Adams et Jamel Debbouze au cinéma pâté de Charleroi. Tu vois, ce genre de truc-là.
Ah, il y a eu ce genre de choses.
Oui, ils sont venus.
Mais ils sont venus à Bruxelles aussi. Hein,
ils sont venus à Bruxelles. Dire bonjour à des fans.
Pendant les BNP Paribas Fortis Film Days.
Les Frères Ennemis, Donc ça, on en a parlé aussi. C'est juste Frères Ennemis, c'est pas les Frères Ennemis. Avec Mathias Connard, Cyril Dacadab, un truc assez classique, somme toute.
On avait dit une étoile, hein.
Une étoile. Final Score.
Je l'ai vu.
Pierce Brosnan et Dave Bautista, c'est quoi ça?
Je l'ai vu. C'est très mal réalisé, l'image est assez moche, mais c'est un truc bien fandard de film d'action. Une espèce de prise d'otage dans un stade de foot.
Il avait pas fait un truc aussi, Pierce Brosnan, l'année passée?
Oui.
Un truc un peu série B comme ça.
The Foreigner.
Ouais, c'est ça.
Bah, on est dans la même veine de genre de trucs.
Oui, c'est ça. Il va essayer de faire son Liam Neeson maintenant.
Je lui donnerai une petite étoile parce que c'est le DTV sympa pour le soir avec la pizza et les potes, tu vois.
A Star is Born. Gros film de sensation aux États-Unis, on va en entendre parler de ce film, ça j'en suis sûr.
Une petite étoile aussi.
On n'a pas fini. C'est A Star, donc c'est une étoile.
Oui.
Et puis Iggy Inspiring Voices, c'est un documentaire belge de Loïc Porcher.
Enchanté.
On ne sait pas de quoi ça parle. Voilà, donc c'était le recap au fif de Namur, donc le recap à la fois, et aussi l'épisode 4 de la saison 2, où on a parcouru les films de la semaine. On se voit du coup la semaine prochaine.
Ben oui.
Faisons comme ça.
Avec encore une semaine. Une bonne semaine, je pense.
Et bon festival, Thibaut, si tu restes ici encore quelques jours. Hein.
Bah, je vais revenir une fois ou l'autre.
Une fois ou deux, de toute façon, voilà. Ouais. À bientôt.
Bah, on se voit bientôt.
On se voit bientôt.
Et je te fais des bisous.
À ce prochain
vidéo. Et à vous aussi, surtout. Des gros bisous.
Ciao, ciao.